T'as du feu?
Ben, c'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui va en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous avez à passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Bonsoir à toutes.
Circus.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à toutes. Et donc, comme tous les lundis soirs, sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique qui va vous parler beaucoup de chambre encore, avec un débat français, ou un faux débat français, on va dire. Mais bon, mine de rien, il y a quand même quelques arguments qui sont échangés, donc on reviendra là-dessus avec plein d'articles.
Oui.
Si.
Ok, si, je m'entendais pas. Ah oui. Oui, on reviendra avec beaucoup d'articles parce qu'il y a eu pas mal de choses dans la presse en général toute la semaine, suite aux propos de Jean-Marie Le Guen notamment.
Ouais, c'est, entre autres, puisque ouais. ça venait après Minucci, ça vient avec après d'autres. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est néanmoins, y en a qui s'expriment et qui disent des choses intéressantes, donc on va essayer de reprendre tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, surtout 7 mai.
Oui, il faut le rappeler, effectivement, le 7 mai prochain, il y a la marche mondiale du cannabis à Lyon. Parce que, voilà,
comme partout ailleurs. Dans plein de villes dans le monde.
Alors oui, en général, c'est le 7 mai, mais dans d'autres endroits, ça sera d'autres jours. Alors par exemple, à Paris, c'est le 14. Voilà. Mais en tout cas à Lyon, voilà, le 7 mai, 14h30, rassemblement, 14h30, place Carnot.
La marijuana million de marche, c'est le premier samedi de mai. Et donc...
Ça dépend.
Cette semaine, c'est toujours...
Cette année, oui.
Mondialement, c'est ça la date. Alors après, il y en a qui le font en avril, il y en a qui le font le 14 mai, il y en a qui le font peut-être le 21. Bon, voilà, mais... À Lyon, on sera sage, on sera, voilà, on fera comme tous les autres au niveau international, puisque c'est la marche mondiale du cannabis qui est internationale, elle se fait dans...
Plus de 200 villes du monde.
Ouais, exactement.
Ouais, pas loin de 300 même.
Mais même en France, y en a 6-7, et il y en a des noms des petits villages où 5 gugus fait ça en mettant une pancarte. Mais voilà, donc ça a quand même des retentissements un peu partout.
Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne Lyon, toutes les infos, vous pouvez les suivre sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Également sur Facebook, il y a une page consacrée à l'événement sur Facebook. Vous pouvez y accéder directement, toujours pareil, en passant par le site du Cirque Lyon ou en allant sur la page Facebook du Cirque Lyon. Voilà. Donc toutes les infos sont disponibles, voilà, et sont mises à jour.
Les infos, donc c'est 7 mai, c'est 15h, c'est Place Bellecour, non, 14h30.
Place Carnot,
oui, Place Bellecour, on y passe, mais ce sera beaucoup plus tard. Puisqu'après on part en manif, donc vers 15h de la Place Carnot. On va à Place Bellecour et on finit
Place
au terreau.
Voilà.
On vient dire un petit bonjour à Colomb. On lui propose de fumer avec nous s'il veut. Puisqu'il a été lui aussi en son temps amateur.
Tu fais gaffe à ce que tu dis.
C'était un 68-heures, il me semble.
Ouais, c'était.
Voilà. Donc 14h30, place Carnot, le 7 mai.
Voilà, et départ 15h.
Voilà, ça roule. Ça marche.
Today, so hard to make them understand what you say, but love is cold fighting.
new vital war. They want them to know what I'm looking for. I never stop fighting, cause I want them to know. I never stop fighting, cause I want them to know. But you know, life is not so long. One day you're gonna lie down in a box. So better check your own direction. Don't you make too much mistakes. Don't you make too much mistakes. Don't you make too much mistakes.
Babylon Circus, oui, bien sûr, avec Tudos.
C'est pas forcément évident pour tout le monde.
C'était pas évident, mais je l'avais choisi justement parce que, voilà, pour plein de choses. Des discussions qu'on venait d'avoir, donc...
oui.
Voilà, c'est ce qu'on vient de s'écouter, donc c'est du vieux.
Donc, alors, avant de partir vraiment dans l'actu, la revue de presse de cette semaine consacrée à tout ce qui a pu être déclaré par Le Guen et d'autres, on va rendre un petit hommage à Howard Marks.
Ouais, on va pas faire une minute de silence à la radio, mais
non,
en tout cas, on va
être sûr qu'il aurait apprécié
très fort.
Donc Howard Marks, peut-être que certaines le connaissent ou d'autres pas.
Peut-être plus sous le nom de Mr. Nice.
De Mr. Nice, voilà. Donc Howard Marks nous a quittés en début de semaine dernière, je crois le 12 avril. Il est décédé d'un cancer de l'intestin. Alors, qui est Howard Marks? Alors, il y a plusieurs articles dans la presse. Là, on en a pris un du Huffington Post, mais il y en avait d'autres. Il y en avait un dans Libé aussi, je crois. Donc, on apprend, enfin, je ne le savais pas, hein, c'est quelqu'un qui a quand même été diplômé de physique à l'université d'Oxford. Puis, dans les années 70, il a. Alors là, dans l'article, on lit, il a basculé dans le trafic de cannabis. Bref, il a. C'était un militant, hein, c'était un anti-prohibitionniste convaincu, donc il n'a pas vraiment basculé. Il a fait le choix, en tout cas, de faire carrière dans le commerce du cannabis, on va dire ça comme ça. Il s'est quand même fait arrêter aux États-Unis en 1988. Il a été incarcéré dans le pénitencier réputé le plus dur des États-Unis, à Terre Haute, dans l'Indiana. Il a été condamné quand même à 25 ans de prison, mais il en a fait 7 uniquement. Il a été relâché pour bonne conduite. Alors, anecdotiquement, on apprend dans cet article qu'il a fait passer du hashish dans les meubles d'un diplomate pakistanais qui déménageait à Londres, ou encore dans les affaires de groupes britanniques de pop prétendument fictifs. Enfin, fictif, prétendument en tournée aux États-Unis hein, pour importer du cannabis aux États-Unis, hein, tout simplement. Et on apprend aussi qu'il aurait brièvement travaillé pour les services secrets britanniques, donc pour le MI6. À sa sortie de prison,
Il avait fait un livre. Hein.
Il a publié un bouquin qui est sorti donc en 96, son autobiographie qui s'est intitulée Mr. Nice, qui ensuite est devenu son surnom. Il y a aussi eu un film en ce qui lui concerne. En 2010. Puis ensuite, il s'est plutôt lancé dans la musique. Il a fait un one-man show pour raconter sa vie de délinquant en cavale. Puis donc voilà, il a fini par la musique en devenant DJ. Il a lancé son propre label, Bothered, ce qui veut dire embêté, ou enquiquiné, ou emmerdé, hein, je sais pas. Voilà, donc beaucoup de personnalités du monde, un peu du show business et de la musique lui ont rendu hommage tout au long de la semaine dernière.
Voilà, tout à fait. Voilà,
alors, des gens du cirque avaient rencontré Howard Marks il y a une quinzaine d'années. Il était venu à la première boutique de chanvre globale qui s'était montée à Montreuil, Chanvre et compagnie. Voilà, si vous suivez l'actu du cirque Lyon et du cirque, il a fait des cirques, vous avez sans doute vu passer des posts sur Facebook. Où notamment on le voit en photo devant Jardin et compagnie avec la personne qui tenait la boutique à l'époque, Eric.
Pour ne pas le nommer.
Voilà, et on les voit tous les deux en photo, c'est sympa ce petit souvenir. Voilà pour Howard Marks, paix à son âme.
Voilà, certains disent que c'était un vrai héros populaire des temps modernes qui fit énormément de choses drôles, choquantes et illégales. Voilà, mais en tout cas c'était un ferveur défenseur de la légalisation qu'il voulait faire autoriser à des fins
récréatives.
Ouais. En tout cas, il y a travaillé.
Voilà. Rest in peace, Howard Marks. Alors, maintenant, on va donc s'intéresser à tout ce qui a pu se dire, s'écrire dans le courant de la semaine dernière. Il y a eu pas mal aussi d'interventions de politiques sur des radios, dans des radios. Pareil, ça, vous pouvez suivre cette actualité en allant sur le site du Cirque Lyon, en cliquant sur Cirque TV dans le menu déroulant de gauche. Et parce que maintenant, il y a la télé à la radio. Il y a des caméras sur les antennes de radio. Donc, vous pourrez également écouter et voir ce qu'ont pu déclarer un certain nombre de politiciens sur le sujet là, de la semaine dernière suite aux déclarations de Le Guen. En tout cas, alors beaucoup d'articles, hein, j'ai pas tout pris, tous les articles qui parlaient de ce qu'a pu dire Le Guen ou autre. Là, on a choisi un article du reste pas terrible, hein, d'ailleurs, de Paris voilà. Match.
Ouais, bah, dans plein de choses, il y a plein de choses qui reviennent, parce que comme tout politique, ils disent toujours la même chose, hein, ils se répètent, ils ont trouvé leur bon mot. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? Donc, il veut légaliser. Il propose que le Parti Socialiste dise enfin la vérité, propose une vérité. L'interdit moral ne crée rien du tout, il crée beaucoup de dégâts dans la société française. Voilà, il faut qu'on réfléchisse aux moyens pour que nous mettions fin à cette politique de prohibition. Il faut peut-être aller vers un mécanisme de légalisation contrôlée, surtout avec des politiques d'éducation, de santé publique. Donc un discours vraiment... très très basique, assez léger, mais bon, en tout cas, il parle de l'essentiel, de la réduction des risques. Il travaille sur la santé, il travaille sur les choses. Bon, et il a ce petit argument qui revient beaucoup, c'est la phrase qu'il aime bien, hein, mais qui est très juste. Hein, et ça, dès qu'on est pris sur un débat sur la prohibition, il faut arrêter de se faire poser, d'être pris en défaut. C'est, il faut attaquer, il faut poser la question, il faut demander au bigot de la prohibition, comme dit Le Guen, il faut leur demander à ces bigots comment expliquer ou d'expliquer pourquoi la mesure appliquée depuis 30 ans ne marche pas. Pourquoi cette prohibition qu'on nous assène que c'est la bonne solution et qu'on a des règles très très fortes, les peines de prison les plus dures et des amendes les plus dures, on est dans les pays qui avons la politique de répression la plus dure. Et pourtant, on n'a aucun résultat, on a même les plus mauvais résultats en Europe.
Ouais.
Voilà, donc je suis sorti un peu de l'article.
Non, non, disons que ça me fait penser un peu à ce qu'on disait l'année dernière, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on citait un politicien des Républicains, Monsieur Goujon, qui arrivait quand même à nous dire que... alors lui, je pense qu'il fait partie des bigots de la prohibition dont parle Le Guen, mais qui, donc ce monsieur Goujon qui nous disait que en France, si on avait réussi si les statistiques de consommation n'étaient pas si élevées, c'est parce que justement il y avait la répression et que grâce à cette politique de répression, on empêchait qu'il y ait plus de consommateurs. Les bigots de la prohibition, ils sont bloqués dans leur raisonnement qui ne tient pas la route. En plus, hein, parce que le père Goujon, en nous disant ça, visiblement, il est à côté de la plaque et il ne sait pas que la France, c'est le pays où les jeunes expérimentent le plus le cannabis, justement, à cause de la répression. Et que du coup, la répression n'a absolument pas empêché beaucoup de gens et de jeunes d'essayer ou d'en avoir une consommation addictive, je ne sais pas comment dire. C'est un peu ça le problème. C'est que au niveau de leur réflexion et de la cohérence de leurs arguments, ça tient pas bien la route. Et voilà, c'est eux les bigots de la prohibition. En tout cas, il s'est fait vite rentrer dedans, Le Guen, alors déjà dans son propre camp. Stéphane Le Foll, hein, quel porte-parole du gouvernement.
Stéphane Le Foll, il a réagi tout de suite. Il n'y a aucune piste de travail ni de réflexion engagée au gouvernement sur cette question. Bon, fermez la parenthèse, on n'a pas... le débat n'est pas ouvert. Ouais. Ça n'empêche pas que la droite a tout de suite rebondi avec Wauquiez qui se dit
le meilleur.
c'est le retour des vieilles lunes de gauche. Est-ce la façon de répondre aux attentes des jeunes? Est-ce qu'ils croient que c'est le type de question que se pose la jeunesse de France?
Peut-être pas, mais je pense pas que Monsieur Wauquiez sache mieux que Monsieur Le Guen que les questions que se pose la jeunesse de France, quoi.
Tout à fait.
Surtout pas lui.
Et sinon, pour fermer aussi, Najat
Vallaud-Belkacem,
donc connaissant Jean-Marie Le Guen, il a dû exprimer une opinion personnelle, mais il n'y a pas de dépénalisation du cannabis en vue. Voilà. Aussi, elle ferme une deuxième parenthèse s'il y en avait une autre d'ouverte. Ah. Donc évidemment, tout le monde rebondit sur le débat sur les drogues relancées ou étouffées. Se pose la question Libération.
Libération pose cette question dans le cadre du mouvement Nuit Debout, un petit peu. Et sur le fait que, il y a quand même parfois des sujets de société qui se posent. Et là, en tout cas, d'après l'auteur, ce serait une espèce de contre-feu. Alors, il n'y a pas que... Lui, il ne le dit pas trop comme ça, mais il y a eu pas mal d'autres articles dans la presse qui disent un peu ça. Hein.
C'est l'argumentaire de Wauquiez, dont on a parlé tout à l'heure. Hein.
Oui, là, je ne parle pas de l'argumentaire de Wauquiez, je parle plutôt de l'article de Libération.
Oui, je sais, mais c'est le même truc, quoi, de dire que c'est fait pour allumer un contre-feu.
Ouais. Alors... là, le journaliste qui écrit l'article, il explique, enfin, il dit oui, effectivement, il y a urgence à poser ce débat et à réfléchir là-dessus. Par contre, il pose quand même cette question est-ce qu'il aurait pas pu, est-ce que ce larme n'aurait pas pu se faire précédemment, en fait.
Oui.
Bref. Enfin.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait l'ouvrir ce débat. Hein. Puis il faudrait faire passer la loi. Quoi. Faut même plus que débat. Il faut même arrêter de débattre. Quoi. Il faut passer à la phase suivante. D'autre manière, dans cet article de Libération, moi, je trouve, voilà, j'ai retrouvé les mêmes choses que j'ai, les mêmes phrases citées que dans l'article d'avant. Hein.
Ouais. Donc voilà, en fait, ce qu'il dit, c'est que ça aurait été utile de faire ces déclarations il y a 4 ans. Alors beaucoup réclamaient le débat. Il y a 4 ans, moi j'ai l'impression que le débat, il y a quand même des gens qui le réclament tous les ans, et, ou tout le temps en fait, et voilà, je n'ai pas forcément beaucoup plus compris pourquoi le journaliste nous dit pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu lancer ce débat il y a 4 ans. Je pense qu'il fait référence au rapport de Vaillant, au rapport Vaillant qui était sorti en 2011. En tout cas, ce journaliste dit que si Le Guen dit que ce sera sans doute un sujet débattu dans le cadre de la présidentielle 2017, ben, il sait fort bien qu'il n'y aura pas de débat et qu'en fait, le fait de parler de tout ça, c'est uniquement des jeux de posture. Mmh. Voilà. Ça ne s'annonce pas super, super enthousiasmant et ce n'est pas très optimiste pour la suite pour 2017. Je crains qu'il ait malheureusement raison quand même au niveau de sa conclusion. Voilà.
Bon, on verra. En tout cas, c'est West France, lui, c'est la dédiabolisation du cannabis est en marche, point d'interrogation.
Ouais, un sujet assez court, mais intéressant.
Ouais, bon, on rappelle beaucoup de pourcentages. Donc, alors 59% de la population française s'oppose à un changement de la législation à propos de la marijuana. Une tendance, toutefois, à la baisse. C'est la seule chose qui est positive. Bon, ils sont encore majoritaires, a priori.
Oui, parce qu'on nous dit que cette proportion était de 70% en juin 2012. Et assez proche aussi, 67% en 96. Ceci dit, l'année dernière, il y a eu un autre sondage qui avait été publié et qui a fait l'objet d'un communiqué de presse pour la marche mondiale de l'année dernière, où il y avait une question qui avait été posée dans la presse, je ne me rappelle plus exactement. Êtes-vous favorable à la mise en place d'une légalisation contrôlée du cannabis, en fait, c'était un peu ça. Et à cette question-là, une majorité de Français répondait oui. Ce qui veut dire que, en fait, les gens... Les Français sont pour la mise en place d'un système intelligent avec un contrôle. Par contre, ils sont opposés à une libéralisation de la vente du cannabis qu'on pourrait fantasmer proche des caisses enregistreuses des sorties des supermarchés, par exemple.
Tout à fait.
Donc les Français sont plutôt opposés à ça, mais sont quand même plutôt favorables. Donc là, encore une fois, la question qui est posée est pas est trop ouverte, en fait.
En fait, maintenant, on va dire qu'on est pour une légalisation très contrôlée.
Ah oui, parce que c'est Carilla, c'est Laurent Carilla, qui est un psychiatre, qui, dans un article un peu plus loin, justement, c'est ce qu'il propose. Très contrôlé. T'as raison, ouais. Mais sinon, pour finir, là, pour, oui, finir sur cet article de West France, on interroge quand même un spécialiste de l'OFDT, qui est un économiste qui a une formation plutôt d'économiste des drogues, c'est donc, qui est sociologue, pardon, excusez-moi, qui est pas, je le confonds avec Pierre Kopp et un autre, donc c'est Christian Ben Lagdar, qui lui, en fait, est plutôt favorable à un changement de politique. Alors, là, on cite un peu les chiffres de l'OFDT, 17 millions de Français qui disent avoir fumé dans leur vie en 2014, contre 13,4 millions en 2011. Donc il y a quand même un gain de popularité du chanvre par rapport à 2011 et ça va avec, de pair avec cette hausse. Il évoque également l'observation par la population d'expériences internationales et au débat sur le cannabis thérapeutique. Donc il parle du Colorado, je pense qu'il parle de l'Uruguay également, des changements de politique dans certains autres pays. Et il dit que de toute façon le sujet, aborder le sujet dans l'espace public reste quand même tabou. Et qu'ouvrir le débat pour les politiques, en tout cas de leur point de vue, reste donc politiquement risqué. Donc comme Jean-Marie Le Guen, bah lui il estime que c'est quand même nécessaire de recentrer la conversation autour de l'aspect sanitaire, et qu'outre la dépénalisation, l'argent dépensé par l'État dans la répression devrait être injecté dans la prévention, hein, c'est toujours un peu le même discours qu'on entend. Et là il parle justement d'une campagne de prévention, d'information, il dit bah, le cannabis tue sur les routes, mais il n'y a eu qu'une seule campagne de sécurité routière en 10 ans. Par ailleurs, les campagnes réalisées en milieu scolaire sont sporadiques et effectuées par des gendarmes, en un seul mot même, et non par des experts de la question. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu toujours la même chose qui revient, peu ou pas de prévention, et de la prévention qui est effectuée par des gens qui font pas de la prévention, mais qui sont là pour faire peur. Et ça marche pas. Et entre parenthèses, j'ajouterais qu'il y a peut-être très peu de prévention et d'information, de campagne d'information en termes de sécurité routière et de cannabis, comme il le dit. À côté de ça, on a augmenté les crédits pour faire plus de répression et de tests salivaires sur les routes. Donc on est toujours dans la répression, en fait. Et jamais dans la prévention, quoi. Mmh. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il finit par dire, Monsieur Ben Lagdar ? On va finir sur cet article et après on s'écoutera un peu de musique. Eh bien, Monsieur Ben Lagdar appelle à communiquer sur les risques plutôt que de réprimer la consommation. C'est très bien aussi ce qu'il dit. Il dit que les arrestations de consommateurs sont passées d'environ 40 000 en 1996 à 120 000 en 2010. Et que tout ça, c'est un coût qui a été estimé en 2007, un coût qui est d'environ 568 millions d'euros par an dépensés par la France. 90% de ces 568 millions d'euros ne sont consacrés qu'à la répression. Donc lui, il est partisan, comme vous l'avez bien compris, je pense, de l'encadrement de la consommation. Mais il reconnaît qu'on est quand même loin de l'égaliser, même au niveau thérapeutique. Et les journalistes de Ouest-France terminent en nous disant qu'une position française, la position française est donc figée, alors que le Canada est en passe de dépénaliser, mais non, est en passe de légaliser, monsieur le journaliste de Ouest-France. Ah, ils savent toujours pas. Il faudrait qu'ils lisent l'article de Métro hein, qu'on a mis dans cette revue de presse, l'article de Métro qui a fait un article sur c'est quoi la différence entre dépénaliser et légaliser.
Oui.
Donc voilà, là, en tout cas. Donc voilà, le Canada ne dépénalise pas mais légalise. Et il nous dit aussi, ça c'est juste, que les pays membres de l'ONU se rassemblent dans le courant de cette semaine pour discuter à l'UNGAS à New York du contrôle mondial des drogues. Voilà pour cet article de Ouest-France. Allez, musique maestro.
Juste dans Sud après, juste pour méditer quand même, parce qu'on n'y apprend pas grand-chose dans Sud de TV5, c'est juste un petit complément pour contrôler, pour très contrôler. Vaillant qui explique à lui, il arrive à force de titiller, il réfléchit.
Daniel Vaillant,
forcément,
hein, ancien ministre.
C'est Le Guen, pardon. Le Guen. Lui dit, il faudrait trouver un mécanisme de légalisation contrôlée avec des levées d'interdiction très sélectives pour les adultes de plus de 21 ans pour un usage privé. Enfin, on arrive au très contrôlé.
oui, bah ça. On va y arriver, hein, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, c'est en mettant en place. En concédant beaucoup de terrain à nos opposants qui, à un moment, seront un peu obligés de légaliser. Quoi. Ça, c'est fort possible. Allez, musique.
Musique.
Hey, youth! I tell ya, leave your devilish behavior. Not one like food. Get a youth con cool, I go on like fool. I go on like them, never got no brain. Get a youth con cool, them go on like fool. I go on like them, never got no brain. Get a youth con cool, I go on like fool. I go on like them, never got no brain. Get a youth con cool, I go on like fool. I go on like them, never got no brain. And I respect to them fathers, and I listen to them mothers. I go on like them, never got no brain. And I love among brothers, and I respect them sisters. I go on like them, never got no soul. Me tell them, say freeze, and think a while. Me tell them, say freeze, and think a while. Know yourself in the puzzle. Where you standing in the struggle? Tell them to freeze and think a while. What make this situation now go get better? What making them get better? Who are make things them get hotter? Who tell the youth to come and shut up? Think a while. We tell them to freeze and think a while.
They pose in a spiritual living in limbo, missing the absurdity in this unreality. Casualties of banality. Rigid lines, greased blind eye to a mass suicide. All the while, a private eye inside, still searching for the real. Them,
posing as spiritual, living in limbo, missing the absurdity and this unreality, casualties of banality, casualties of banality.
Them a go on like them never got no brain, brain. Them a go on like them never got no soul,
posing as spiritual.
Them a go on like them never got no brain, brain.
Living in limbo.
Them a go on like them never got no soul,
posing as spiritual.
And them a go on like them never got no heart,
living in limbo.
Écouter
Zenzile.
Zenzile.
Know yourself.
Avec Sir John. Donc, oui, alors on va repartir dans l'actu. Et quelques petits articles qui payent pas une mine comme ça, qui sont pas mal. Qui sont pas mal. Alors, je vais commencer par celui-ci. C'est sur franceinfo.fr. C'est un, le cannabis est dépénalisé de fait en France. Voilà ce qu'a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet récemment. Et donc, dans cet article, c'est Le vrai du faux par Antoine Krempf. Et c'est très, très intéressant. Alors, du coup, bah, voilà, il reprend cette fameuse déclaration de Kosciusko-Morizet qui nous dit que en France, le cannabis est dépénalisé de fait. Je vous passe le début. En pratique, comment ça se passe à la prison serait l'exception, à part quelques cas de récidive. D'après les chiffres du ministère de la Justice, un peu plus de 50 000 personnes ont été condamnées en 2014 pour usage de stupéfiants. 50 000 personnes, c'est énorme. Rapporté aux quelques 130 000 consommateurs présumés interpellés chaque année, ce n'est pas grand-chose. Sauf que, trois petits points, sauf que l'OFDT, selon l'OFDT, donc, même si le volume des condamnations pour usage a progressé moins rapidement que les interpellations au cours des deux dernières décennies, il a tout de même été multiplié par 4. Et alors c'est un article qui a été publié en 2012 sur le mythe de la dépénalisation de fait, justement. Ensuite, les parquets ont d'autres options que celle d'envoyer tous les fumeurs d'herbe ou de hashish dans les tribunaux. D'après les chiffres de la justice compilés par l'OFDT, les magistrats saisis pour des affaires d'usage de cannabis choisissent dans 70% des affaires des réponses pénales alternatives, comme les rappels à la loi ou l'obligation de soins. Et au final, le taux de réponse pénale pour usage de cannabis dépasse les 90%. Difficile donc d'affirmer qu'il y ait une dépénalisation de fait en France. Voilà, c'est faux. C'est faux, voilà. Et moi, je rajouterais qu'il y a à peu près 150 000, alors là, on nous dit 130 000 consommateurs présumés interpellés, mais ça, c'est depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est plus d'un million de Français qui ont été interpellés pour des histoires de cannabis en 10 ans, et plusieurs millions en 40 ans. Voilà, c'est quand même ça. C'est une répression de masse, le délit d'usage de cannabis, enfin de drogue, et surtout de cannabis, hein, parce que c'est 90% des interpellations. Donc voilà, il n'y a pas de dépénalisation de fait. Donc Madame Kosciusko-Morizet, comme pas mal de ses collègues politiciens, raconte des bêtises, là aussi. Autre article très intéressant, du coup, qu'on voit rarement, hein, c'est dans Metro News de la semaine dernière, de mardi dernier. Débat sur le cannabis, au fait, entre dépénalisé et légalisé, quelle différence ? Ouais, c'est bien de se poser la question, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Donc là, bon, bah voilà, on voit un peu. Les réactions se multiplient après les propos de Le Guen, à propos de l'ouverture d'un débat sur le cannabis. Donc on entend tantôt le terme de dépénalisation, tantôt légalisation, sans que la nuance ne soit toujours clairement établie. Pourtant, les deux notions couvrent des réalités très différentes. Et oui, dépénaliser, ça signifie littéralement renoncer à punir pénalement l'usage du produit, du moins baisser le niveau de l'infraction pour le consommer. Cela ne signifie pas... Pardon ?
Oui.
Cela ne signifie pas que tout est autorisé. Comme pour l'alcool, l'ivresse n'est pas un délit, mais l'ivresse publique et l'alcool au volant sont réprimés. Ainsi, le Portugal avait par exemple dépénalisé l'usage de toutes les drogues en 2001, mais la consommation dans les lieux publics du pays reste donc une infraction qui peut conduire à une arrestation et des mesures de police, de contrôle de police. Le produit demeure donc illégal, tandis que sa vente et son trafic constituent toujours des crimes. Voilà ce que c'est la dépénalisation. Légaliser peut être très restrictif. En revanche, légaliser donc signifie donner un cadre légal à un produit ou une activité. Ce cadre peut être très restrictif, avec un type de consommateur limité. De nombreux États américains ou plusieurs pays d'Amérique latine, la Colombie a à son tour franchi le pas en décembre, autorise ainsi le cannabis pour un usage thérapeutique et certains le font à des fins récréatives. L'État peut alors instaurer un monopole de vente comme pour le tabac ou même contrôler toutes les étapes de la production à la vente. C'est par exemple ce que demande Europe Écologie Les Verts qui estime que c'est la meilleure façon de lutter contre le trafic de drogue. C'est aussi l'option vers laquelle Jean-Marie Le Guen semble s'orienter. Et donc, il dit qu'il faut peut-être aller vers des mécanismes de légalisation contrôlée et surtout des politiques d'éducation et de santé publique, hein, comme on disait tout à l'heure. Et donc, je vais reciter ce que tu as dit, hein, ce qui est intéressant. Il parle justement de levée d'interdictions très sélectives. Selon lui, il faudrait l'autoriser pour des adultes, certainement pas pour les jeunes de moins de 21 ans, et pour un usage privé, certainement pas un usage public. Et enfin, on nous parle de libéralisation, donc qui serait la mesure la plus permissive, qui consisterait à autoriser la vente libre du cannabis. Alors, c'est pas super bien dit non plus, parce qu'on peut librement aller acheter du tabac, par exemple, mais il faut être majeur. Donc là, libéralisation, ça voudrait dire qu'on pourrait finalement en vendre à n'importe qui, même à des mineurs. Donc oui, effectivement, à ce compte-là, ce serait une vente totalement libre. L'État se contenterait alors de vérifier les mesures d'hygiène et de conformité, comme pour n'importe quel produit, comme pour la viande ou le lait. Mais aujourd'hui, aucun pays ne l'applique et au sein de notre classe politique, personne ne la revendique. Voilà. Par contre, on nous prête à nous au cirque cette volonté-là de libéraliser, pour qu'on en trouve partout, ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, vouloir légaliser, c'est pas vouloir imposer et rendre obligatoire le fait... de le consommer, hein. C'est pas le moins qu'on puisse dire.
Voilà, nous, on avait développé à l'époque des cannabistros, quoi, un système qu'on voulait baser sur des cannabistros pour mettre tout ça sur le...
Pour
légaliser.
Voilà, un cadre légaliser, de distribution encadré qui serait le cannabistro,
qui serait interdit aux mineurs. Un petit peu peut-être des cannabis social club, un petit peu le système... hollandais des cannabistros.
Des coffee shops.
Des coffee shops, voilà. Tout à fait. On avait des systèmes de cultivateurs agréés, d'autorisation de vente, etc.
Voilà, donc, ce qui est important de dire, c'est
un chemin tracé et tout ça pour que.
C'est important de dire, c'est que pour entrer dans un cannabistrot, il fallait être majeur. Et dans les cannabistros, il n'y avait pas d'alcool et d'autres substances que du cannabis.
Voilà. Et dans les pays qui légalisent et qui légalisent bien, comme l'Uruguay quand même, bon, il faut les citer, eux seraient un petit peu sur ce système donc d'autoproduction et de production réglementée d'État. Quoi. Ils font un mixte entre les deux systèmes.
Voilà. Ils ont bien lu tous les tracts du cirque. On y voit quoi,
ouais, ils ont réfléchi avant d'agir d'ailleurs. Puisqu'ils ont légalisé avant sur le papier, mais les décrets d'application ont atterri après que le Colorado s'y soit déjà mis quasiment. Puisqu'ils ont légalisé, puis c'est parti. Quoi. Eux, c'est le libéralisme quasiment.
Il y a quand même pas mal de règles.
Il y a quand même quelques règles. Toujours interdiction aux mineurs, entre autres, voilà. D'ailleurs. Comme mineurs, c'est 21 ans chez eux.
Cette légalisation, pseudo-libéralisation cannabique au Colorado est finalement assez aussi encadrée, donc pas si libéralisée.
Voilà.
Ouais, c'est pas simple. Hein.
Donc, en tout cas, tout ça, ça a fait parler. ça nous a sorti quelques personnes nouvelles ou des gens qu'on a déjà entendus, mais bon, qui sont toujours interviewés. Mais qui disent des choses intéressantes, hein. On entend sur Europe 1, donc c'était Jean-Pierre Couteron,
qui est le directeur de l'OFDT.
De, de, De quoi tu dis ?
De l'OFDT.
Coutron ? Ah.
Bah Jean-Pierre Coutron.
Je crois que c'était le président de la Fédération d'addiction et un médecin addictologue.
Ah, c'est possible, ouais. C'est possible que j'ai mélangé. Ouais. Mais il est à l'OFDT aussi, Coutron. Hein.
C'est possible, c'est possible. Voilà, mais bon, donc lui a été interviewé à la suite. Voilà. Donc on lui a posé, c'était Patty qui était là et qui lui a posé des questions sur la légalisation du cannabis. Donc bon, il dit que c'est le système actuel a échoué, quoi. C'est la. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'est comment, quel système à mettre en place pour le remplacer ? C'est surtout ça la question. C'est ce dont on discutait il y a un instant. Faut faire attention pour les adolescents. Le problème, même maintenant, on en trouve au collège. Quoi. Voilà, il dit différentes choses. Le risque de la légalisation du cannabis serait-il de voir sa consommation s'accroître dans la société ? Lui, a priori, il dit, il répond pas à la question. Il faut se poser la question. Nous, on pourrait dire, a priori, ça va plutôt baisser. Avec une bonne prévention, on arrivera à beaucoup mieux contrôler les jeunes. C'est ce qui se fait d'ailleurs aux Pays-Bas, où c'est toléré. Et pourtant, les jeunes fument deux fois moins qu'en France. Voilà. Donc, avec une bonne information, ça ferait une bonne prévention. Ça réduirait pas mal de petits problèmes. Donc on revient à ce que disait Coutron. Donc il prend l'exemple des seringues. Il a dit qu'on les a distribuées gratuitement, ça n'a pas augmenté le nombre d'usagers. Ça a juste permis qu'ils soient en sécurité sanitaire. Et les problèmes donc d'injection ont diminué. Et enfin de votre l'État doit-il légaliser le cannabis ? Lui dit oui, sans doute, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est surtout ça. Il faut créer une régie, ouvrir des cannabis social clubs, comme l'ont fait les Suisses. Donc là, c'est plutôt les Espagnols, mais bon, je crois que chez les Suisses, ça s'appelle autrement et c'est pas tout à fait fait.
Oui, c'est étonnant qu'il parle des Suisses.
Voilà, il a fait un petit mélange, je pense. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà. C'est intéressant, ça amène quelques éléments différents de d'habitude.
Oui. Carilla, un petit peu, non ?
Oui, tout à fait. Donc, un autre qu'on a sorti.
Un article de l'Express.
Voilà, donc lui, c'est aussi un psychiatre et spécialiste des addictions.
Oui, qui travaille avec Loewenstein.
Voilà, Loewenstein aussi a été interviewé d'ailleurs. Donc lui aussi a pas mal évolué sur ses positions quand même.
Ouais, ça fait un petit moment qu'il a bien évolué.
Oui, oui. Depuis qu'il avait écrit à l'époque, il n'y a pas de drogueur.
Ah non, ça c'était Loewenstein.
Ah, c'était Loewenstein, pardon.
Il est mort le pauvre, il est mort en 2004, je crois, ou 2003. Non, là, Loewenstein, je disais.
C'est Loewenstein, oui, ouais. C'est moi qui ai mélangé les deux.
Bah, c'est compréhensible vu leur nom.
Laurent Carilla, donc psychiatre et spécialiste des addictions. Allez, donc faut-il dépénaliser ? Donc il dit la dépénalisation serait une première étape pour revoir les choses. Ce serait un grand pas en France. Voilà. Donc sinon, il rappelle quand même que les jeunes français sont au top de l'addiction au niveau européen. Voilà. Donc comme il avait fini sur la dépénalisation n'est qu'une première étape, la question suivante, c'est avec, au-delà de la dépénalisation, faut-il légaliser le cannabis ? Donc, dans un second temps, un travail de la légalisation. Voilà, donc on pourrait aborder la question de la qualité du cannabis vendu et des taxes sur ce produit avec une légalisation. Voilà, ça serait... Et donc, moi, il se réfère aussi à ce qui se fait sur le tabac et tout.
Alors juste un petit détail, hein, petite parenthèse, il dit qu'il faut légaliser, il dit que ça rapporte de l'argent, ça permet de développer autre chose en termes de santé publique, notamment de la prévention, des campagnes de prévention, d'information, du développement, de la recherche, permettre l'accès aux soins plus facilité, si c'est un truc dont on ne parle pas suffisamment. Voilà, donc il dit ça aussi. Et donc voilà, qu'entendez-vous par une légalisation très contrôlée ? Parce qu'il finit quand même par ça.
Voilà, c'est toujours, toujours très contrôlé. Et je pense qu'on va arriver à ces termes même bientôt.
La MLTC, c'est, on va dire ça avec Caballero, le mouvement pour la légalisation très contrôlée. Donc, légalisation très contrôlée. Hein. C'est quoi, légalisation très contrôlée ?
Parce qu'il faut protéger les jeunes.
Ah, toujours.
C'est là qu'est le vrai problème. Le cannabis est une maladie de l'ado et de l'adulte jeune. Un cerveau est mature vers 20-25 ans. Si vous consommez des psychotropes qui se fixent sur le cerveau, vous modifiez un peu l'architecture du cerveau.
Avant 20-25 ans. Ouais.
Voilà. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, faites attention, si vous êtes jeune, faites attention à votre cerveau.
Bah, en tout cas, n'abusez pas de substances psychotropes, hein, que ce soit tabac, cannabis, alcool.
Voilà, c'est tout à fait. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut dire ? Parce que si vous regardez, si vous aimez Internet, on peut voir cannabis dangereux sur le cerveau. Mais si on tape alcool, dangerosité, cerveau, vous tombez sur plein de pages aussi, hein, et tout de suite, hein, je vous le garantis.
C'est pour le rappeler.
C'est pour le rappeler. Dans les psychotropes, l'alcool fait beaucoup de dangers.
Beaucoup de dégâts.
Voilà. Il faudrait peut-être très contrôler l'alcool. J'en étais où ? Donc oui, je reprends donc les propos quand même de Kava.
Donc voilà, l'architecture du cerveau est menacée si vous avez moins de 20 ans. Et il parle en plus en premier lieu de la consommation de cannabis chez un jeune, voilà, qui peut avoir des répercussions sociales. Mais si le jeune est vulnérable à des maladies psychologiques comme l'anxiété ou la dépression, le cannabis peut réveiller ces choses-là, voire les aggraver, hein, toujours un peu. Et il parle de populations vulnérables à protéger des drogues, comme les populations qui ont des risques de maladies psychiatriques, car la consommation de tout type de drogue aggrave aussi la maladie. Et bien sûr, prendre en compte la conduite sous l'emprise du stupéfiant, quelle que soit la drogue. Précise, c'est bien. Et autre point important, en France, on n'est pas en Jamaïque. On fume le cannabis avec du tabac, donc on a les risques liés au tabac qui s'associent à la consommation de cannabis. Et là, en disant ça, il rejoint ce que disait déjà au mois de février le pneumologue Bertrand Dotzenberg, qui disait que voilà, on fume du cannabis en France de la plus mauvaise des manières, en mélangeant du tabac avec du hashish. Et que ça, c'est pas forcément...
Même pur, dans tous les cas, bon. Même fumé pur...
Fumé, c'est pas bon.
C'est pas bon, il y a des goudrons. Tout corps brûlé crée des goudrons. Quoi.
Et donc, Dotzenberg de préconiser la vaporisation. Et M. Carilla l'a dit il y a quelques temps aussi, suite à ce qu'avait dit Dotzenberg. Voilà.
Une autre qu'ils ont sorti, hein, qu'on connaissait pas du tout par contre, Emmanuel Auriol.
Ah, c'est une économiste.
C'est une économiste, voilà, dépénaliser le cannabis pour reprendre le contrôle. Donc une chercheuse en économie qui plaide pour la légalisation des marchés interdits.
Chercheuse à Toulouse.
Voici les arguments en primeur pour le point, hein, même si t'es un peu là.
Alors, elle a écrit un livre. Pour en finir avec les mafias, sexe, drogue et clandestins, et si on légalisait, un bouquin qui va paraître le 4 mai prochain, un peu avant la marche mondiale, aux éditions Armand Collin. Emmanuel Auriol, qu'elle s'appelle. Donc elle répond à une interview du Point. Là, pareil, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit. Qu'on a pu lire au moment de la publication fin 2014 du rapport Terra Nova. Rapport auquel a participé Pierre Coppe et aussi Bertrand Ben Lagdar, dont on a parlé il y a 20 minutes.
Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant chez elle, c'est un peu son côté... formation ou pédagogique.
Oui.
Dans ce qu'elle raconte, hein, pour éliminer le crime organisé, il faut lui faire concurrence, donner envie aux consommateurs d'acheter sur le marché légal. L'État doit donc proposer une offre suffisamment basse pour qu'elle se substitue à celle des réseaux mafieux. Les avantages ne manquent pas, même si le cannabis légal est un peu plus cher. Les acheteurs sont sûrs que le produit est de bonne qualité, ils n'ont pas affaire à des trafiquants, ils peuvent consommer sans risquer de se faire arrêter. L'État est le maître du marché. Voilà, un peu. Après, elle décline. Elle explique même comment les Américains arrivent à se faire des sous dessus. Hein. Et ils expliquent, et elle explique pour conclure, en fait, dans les États américains qui sont où c'est légalisé, 70% de la demande se fait par le marché légal.
Ouais.
Voilà. Et dans d'autres États où l'herbe a été, où c'est beaucoup plus taxé, a priori, ça serait un petit peu moins.
Ouais, parce que dans l'État où la pression fiscale est plus forte, hein, donc dit-elle, et où le gramme se négocie par exemple au-delà des 25 dollars, ben, ça marche moins bien et le marché noir représente toujours une part importante des échanges. Mmh. Ouais. D'où, encore une fois, je reviens un peu à l'Uruguay, hein, qui avait annoncé à un moment que ils allaient fixer le prix à 1 dollar le gramme, ou je sais pas quoi. Enfin, pour couper complètement l'herbe sous les pieds des trafiquants.
Oui, c'est une des méthodes. Ouais, quoi.
Donc il y a un bon équilibre à trouver au niveau du prix. C'est déjà ce que disait Terra Nova, le rapport Terra Nova, ouais. Fin 2014.
Mais voilà, c'est très honnête ce qu'elle dit. Après, elle prône l'élimination du trafic du cannabis par une politique de l'offre, mais comment éviter la tentation du marché noir ? Donc là, elle explique un peu ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Bon, alors c'est assez marrant, hein, parce que là-bas, ils ont... Là, elle dit des bêtises, d'ailleurs, plutôt que je le dis.
Voilà. Vas-y.
Les trafiquants peuvent en effet réduire leurs marges et casser les prix. Il faut donc les dissuader de faire en étant impitoyables avec eux. C'est ce qu'ont fait les Pays-Bas. Ils répriment très sévèrement le marché noir. L'État tirerait de la dépénalisation un bénéfice économique grâce au marché prélèvement généré par la légalisation. Bon, bref, en tout cas, oui, mais ce qu'ont fait les Pays-Bas, ils répriment pas sévèrement le marché noir. Ils ont créé un marché gris. c'est absurde, quoi. Là-bas, c'est toléré. C'est pas, même pas dépénalisé, c'est toléré.
Oui, mais s'ils ont créé un marché gris, il y a forcément un marché gris foncé, voire noir.
Ouais, c'est...
Et
ouais.
Ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas lutter contre ça, parce que oui. Même la police française fait appel à la police hollandaise pour des histoires de trafic de drogue. Mais
parce que les coffee shops continuent de s'approvisionner au marché noir. Noir. Donc voilà, c'est ouais, là qu'il y a...
Alors ce que moi je crois comprendre de ce qu'elle dit, mais qu'elle ne dit pas, c'est qu'effectivement, ils luttent quand même beaucoup contre les importations de drogue aux Pays-Bas. Et là où il y a une tolérance, c'est aussi sur la production locale d'herbes, par exemple. Mmh. Voilà. Là, il y a quand même une plus grande tolérance à ce niveau-là. Mais il y a quand même des vendeurs d'herbes, des producteurs d'herbes locaux aux Pays-Bas qui choisissent de ne pas écouler leurs marchandises dans les coffee shops. Mmh. Et ceux-là sont peut-être aussi la cible des forces de police. Voilà. Mais en tout cas, oui, à partir du moment où on n'est pas dans un système clair non plus, c'est pas si simple et ce qu'elle dit n'est pas si vrai, en fait.
Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit ? L'État doit investir dans la répression une partie des recettes fiscales engagées par la légalisation. Donc elle parle que ce n'est pas la légalisation ou la répression, c'est la légalisation et la répression. La synergie des deux est la condition de leur efficacité. Il faut mener un travail de pédagogie sur les drogues, comme cela a été fait sur l'alcool, dont la consommation a été diminuée par deux en 20 ans. Actuellement, l'interdiction du cannabis empêche toute information pédagogique à ce sujet. Donc, c'est un truc assez intéressant qu'elle raconte en plus.
Ouais.
Après, je ne sais pas si elle dit d'autres choses.
Ouais, je crois qu'à un moment, elle nous taille un peu un short. Elle s'en prend un peu aux anti-prohibitionnistes et aux militants, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a un endroit, je retrouve pas, mais elle dit que les militants de la cause rendent pas service à la cause, en fait, en militant de leur manière, je crois, un truc comme ça.
Ouais, puisque, bon, elle...
Ah non, c'est dans l'autre article, excuse-moi.
Oui, là, il me semble pas... Bon, après, elle parle aussi des autres produits, cocaïne, héroïne. Donc elle dit c'est le problème est différent, n'empêche qu'il faut trouver des solutions quoi.
Oui.
Et donc il faut trouver les systèmes comme en Suisse ou autres sont beaucoup plus intéressants a priori. Il faut chercher. Voilà, c'est nous on a enfin une salle de shoot mais c'est quand même on a 10 ans de retard sur tout le monde.
C'est timide.
Après, bon, pourquoi la dépénalisation reste un tabou Donc là aussi, voilà. Elle dit que la France est un petit peu. est très ambiguë. Voilà, justement, donc elle, on ouvre des salles de shoot, comme je le dis, donc des, mais c'est une, mais bon, et en même temps, on criminalise les usagers. Voilà, c'est, elle dit, c'est, on a des, on est dans des situations ambiguës.
Oui. Cette,
voilà, et le dernier argument, c'est un signal moral de l'interdiction. Et la réponse, c'est, mais cela ne fonctionne pas. Alors, il faut arrêter de s'entêter. C'est la question que disait Le Goen. c'est bigot d'antipro de prohibitionniste. Mais... D'accord, t'es contre le fait que les jeunes fument, qu'on fume, etc. Mais là, la politique actuelle, en quoi ça gêne et en quoi ça empêche ça? Regarde, on a une politique très répressive en France. Et pourtant, c'est là qu'on consomme le plus. Explique-moi pourquoi. En quoi la prohibition fait que ça fonctionne? Et à partir de là, on prend on pose la bonne question, et c'est plus nous qui sommes en accusés, et plutôt nous qui sommes en accusateurs. Ce qui est la bonne... voilà, je pense que la bonne question. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'émission.
Oui, alors donc, juste...
Je voulais finir sur lui.
C'était donc Emmanuel Orgnol, donc dans un article du Point.fr. Avant de se quitter, je voulais vous parler de ce dont on ne vous parlera pas, parce qu'on on a pas le temps. Voilà, l'article... un article de Slate.fr, la guerre au cannabis est une mauvaise politique, à une interview de William Lovenstein, qui est un médecin interniste et addictologue, président de SOS Addiction. Juste pour vous dire que, quand même, dans cet article, il nous dit quand même que ce qu'on a entendu de la part de Le Goen, ce sont des arguments qui ont un goût particulièrement déplaisant de déjà vu et entendu, effectivement. Voilà, l'article est quand même intéressant. Et un autre article très intéressant dans Slate.fr, c'est un philosophe, Xavier Land ou Landès. La législation actuelle sur le cannabis est de plus en plus difficile à défendre. Un article donc dans Slate.fr du 13 avril dernier, un article que je trouve plutôt bien, et c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu en parler. Peut-être si on va se le garder sous le coude pour la semaine prochaine. Avec quand même des principes philosophiques là qui sont abordés, qu'on entend, qu'on peut lire rarement.
Tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, on a aussi tout un 8 pages qui est en courrier international.
Ah oui, tout à fait.
Qui s'appelle « Drogue, faut-il tout légaliser ?» Donc eux, ils vont vraiment encore, voilà, c'est les autres pays, voilà, c'est, ils vont plus loin, quoi.
Il y a des chances qu'on en parle de la semaine prochaine de ce courrier international. Ce dont on ne vous parlera pas non plus...
Vas-y.
C'est Jean Constantin qui s'exprime dans Paris Normandie.
Ça, c'est pas grave.
Intitulé un spécialiste normand s'oppose fermement à la légalisation du cannabis. Voilà, Jean Constantin, un prohibitionniste bien connu et zozotant, qui dit pas mal de bêtises aussi. On va pas perdre du temps à parler de ça. Un article aussi dans La Croix. Point com, un entretien avec Charles Pram, magistrat et membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, qui s'exprime et qui nous dit que la légalisation du cannabis ne cassera pas les trafics et qui dit aussi pas mal de bêtises. Il dit qu'en Portugal, ils ont légalisé alors que c'est pas le cas, ils ont juste dépénalisé. Visiblement, il n'y connaît pas grand-chose. On ne vous parlera pas non plus de cet autre article de West France Cannabis, quels arguments s'opposeraient en cas de débat. Un article du 13 avril qui présente un quelconque intérêt. Voilà, on ne vous parlera pas non plus de cet autre article de business, de la partie business dans BFM TV, ce que pourrait gagner l'État si la France légalisait. Un autre article aux États-Unis, la dépénalisation du cannabis fait consensus, toujours sur bfm.tv.com. Et enfin, la légalisation du cannabis permettrait-elle de relancer la croissance en France dans capital.fr. Voilà, tout ce dont on ne parlera pas.
On pourrait presque s'y croire, et on vous rappellera pas non plus qu'il faut aller le 7 mai à la manif, absent. Et lui, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du THC donc, dans une pâte à gâteau, et il l'a pris avec des amis. Donc on dit que c'est sa première et sa dernière défense de la vie de Raphaël Meshulam. Mais en tout cas, ce qu'il a noté, c'est que ça provoquait des effets, mais très différent selon la fonction, en fonction des consommateurs. Certains de ses amis parlaient sans cesse, d'autres étaient mutiques, et un semblait souffrir de paranoïa.